Intermondial.
RCV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
3, 2, 1. Bien le bonjour, bien le bonjour sous la neige. Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël? Avez-vous des plans? Avez-vous des plans pour le temps des fêtes? Eh, on fait des farces plates ce matin. Salut, bienvenue dans l'heure CV. Mon nom est Pascal, je suis avec vous jusqu'à 11h. 1h, l'heure CV. Ben avec moi. C'est pas mal ça le concept de l'émission. On est des collègues, en fait, durant ce moment-là de la journée. On prend notre café ensemble, on jase, on fait le tour de l'actualité. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs un peu humains et psychologiques qu'on amène dans ce show-là. Finalement, on se prend pas au sérieux. Alors, si ça vous tente de vous joindre à la communauté, puis c'est la première fois que vous vous branchez dans l'heure TV, bienvenue. 418-971-1021, ça, c'est la manière de texter pour que je puisse vous lire en direct, parler avec vous durant l'émission. 418-971-1021. Et je vous conseillerais quand même de l'ajouter à vos contacts. Dans votre cellulaire comme ça, ben vous pouvez entrer BLVD ou Reg Laplanche ou Pascal CV ou Véro Bergeron, Denis Gravel, Yannick Marceau, peu importe quel nom vous donnez à ce contact-là. C'est la manière de nous rejoindre ici. Autre chose vraiment fun, vraiment, vraiment intéressante, c'est Twitch. Twitch, c'est quoi? Des caméras en studio. Vous pouvez venir voir comment on s'habille à chaque jour, les mimiques qu'on fait, la raison du pourquoi on ne fait pas de télé aussi, fort probablement. Twitch.tv/BLVD/FM. Et il y a aussi un chat, donc on se jase tout le monde ensemble, comme à la vieille époque de MSN. Ouais, ça nous rajeunit pas, comme diraient les gens, mais en même temps, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se rappellent de cette période-là. Est-ce que vous vous rappelez la période où il n'y avait pas Messenger sur Facebook et que les gens écrivaient directement sur on appelle ça un wall Facebook, là, une page centrale de Facebook sur le compte de la personne? Puis des fois, ben, il y en a qui oublient justement que tous les contacts. Voilà ce qu'on écrit sur ce mur Facebook-là. Il y en a qui le font encore. Messenger, c'est pas tout le monde qui l'a puis qui sait comment l'utiliser. Puis ça fait le bonheur des autres. Hey, mais bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, première étape, comme d'habitude, c'est un proverbe. Hein? Et je m'en suis pas remis de celui qu'on m'a fait lire dernièrement. Je cherche encore la signification. Puis avant d'aller vous la dire, de la trouver exactement, j'ai juste envie qu'on brainstorm ensemble. Le proverbe d'aujourd'hui, c'en est un français. Des fois, les Français peuvent nous surprendre de toutes les manières possibles. Hein? Et le voici. « C'est à qui sera la chevauchée que la jument appartiendra. » Attention au double sens. Mais ce proverbe français, je le répète, c'est à qui sera la chevauchée que la jument appartiendra? À vos claviers au 418-971-1021 ou encore sur Twitch pour qu'on saisisse bien ce proverbe français. Très connu de nos cousins, très peu de nous. On s'installe pendant que vous brainstormez sur qu'est-ce que ça veut dire. On s'en va en musique avec le stéréo et Sam and the Terrible News. Et je vous envoie aussi sur la page Instagram de Boulevard 102.1. Ce matin, je me suis levée avec mon petit café puis je vous posais une question. On rit, là, on rit. Aujourd'hui, programmation du Festival d'été de Québec. On croise les doigts. Motley Crue, on y croit à 90 % qui seront sur les plaines d'Abraham. On va triper si c'est le cas. Mais on va présenter ça du côté du Festival d'été de Québec à midi aujourd'hui. La question, on s'en va dans le champ gauche complètement, qui ne sera assurément pas de la programmation? Qui ne sera assurément pas de la programmation? Page Instagram de Boulevard 101, dans les stories, il y a une petite façon de répondre à cette question-là. On s'amuse tellement qu'il y en a qui ont dit Guillaume Lemaitre-Vierge. C'est très bon, j'adore ces réponses-là. Faites-moi rire en grand nombre et faites rire l'équipe de Boulevard 101 pendant Sam and the Terrible News, comme je vous disais, le stéréo à Boulevard.
Cool. RCV avec Pascal CV.
Le brainstorm est commencé pour comprendre le proverbe, vieux proverbe français. C'est à qui sera la chevauchée que la jument appartiendra? En gros, beaucoup de niaiseries au 88-971-1021. Certaines que je ne peux dire en onde. Et ben, pour le plus sérieux, finalement, des gens disent ben, on parle ici de la réussite. Alors, chevauchez votre jument et elle vous appartiendra aujourd'hui en ce 20 mars 2024. J'espère que la journée est bonne pour vous. Sinon, ben, prenez ce qui sera bon et trouvez-le. Si jamais c'est pas le cas, puis ça peut être juste un bon café chaud. Ou encore, leur CV, Boulevard 102.1, vos animateurs favoris, notre gang ici. Je parlais avec les gars ce matin. des inconnus. Bon, un grand cauchemar pour bien des gens, soit parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. Mais je suis tombée sur une étude hautement intéressante et les affaires même ont republié ça, des articles américains qui sont sortis récemment pour, bon, démontrer aux gens qui souhaitent réussir dans la vie et être heureux que c'est vraiment bénéfique de parler à des inconnus. Êtes-vous capable de le faire, vous? Est-ce que ça vous gêne? Êtes-vous terrorisé par une simple salutation à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Ou vous avez cet entre-genre-là, cette façon d'entrer en contact avec les autres un petit peu plus facilement que des collègues ou des amis. Mais sachez, et peut-être que vous allez pouvoir commencer à exercer ça par un hochement de tête pour commencer, que les personnes qui saluent des inconnus sont au moins une fois par semaine. C'est pas si gros, en fait, là. Mais si vous saluez des inconnus au moins une fois par semaine, vous êtes trois fois plus susceptible d'être heureuse que celles qui ne le font pas. C'est une étude de l'Université de Victoria. Et là, vous dites, c'est une étude bidon. Non, c'en est une bonne qui a été faite en 2021, du 21 avril 2021 au 1er juin 2021. C'est vraiment une enquête qui était à participation facultative. On n'a pas obligé des inconnus dans la rue à répondre pour faire ça. Mais 3800 participants au Canada qui ont été recrutés pour faire justement cette étude-là. Et on a trouvé, dans les saisies de données, que 90 % des cas raisonnés, qu'on parle à un inconnu, ça fait en sorte que ça entraîne une expérience positive pour les deux parties, autant pour la personne qui s'est fait aborder que celle qui a abordé. Et on ajoute qu'amorcer une conversation avec un inconnu, ça accroît le bonheur, la confiance, la compassion, le sentiment d'appartenance, l'optimisme, en plus de réduire, la solitude. Assez simple quand tu y penses, là, saluer quelqu'un qui se sentait seul, se sent un peu moins seul par la suite. Mais là où je trouve ça super intéressant, c'est dans la confiance. Pour ceux qui sont gênés, par exemple, d'aller aborder des gens ou autres, le fait de se dire, OK, trois secondes de courage, je ne connais pas la personne, peut-être qu'elle va me juger, peut-être qu'elle ne me répondra pas, peut-être qu'elle va avoir peur de moi, je ne sais pas moi de quoi vous avez l'air, mais je vais tenter de la saluer. Puis on verra ce qui est. Mais c'est ça, c'est du courage quand même, là. C'est de la confiance qui se travaille. Puis ça apporte justement quelque chose dans votre vie. Le sentiment d'appartenance aussi, vous vous sentez seul à longueur de journée ou encore vous vous sentez seul parmi vos proches, ça arrive à tout le monde. Puis ça arrive plus souvent qu'on pense. Le fait justement de connecter rapidement puis de façon, superficielle avec quelqu'un d'autre peut amener un sentiment d'appartenance dans ta ville. Si par exemple, t'en as un au travail, t'en as un à la maison, mais après tu te sens perdu, ça peut aider. Je trouve aussi que c'est bien de souligner la compassion dans tout ça. Là, probablement que c'est une plus grande conversation avec la personne. Mais des fois, jaser avec des gens très près de nous, des émotions, du vécu et autres, on est un peu teinté par ce que la personne nous fait ressentir, par nos conflits avec cette personne-là, nos conversations un petit peu plus difficiles. Fait que d'aller dans l'empathie, la compassion, c'est pas toujours donné à tout le monde dans ces moments-là où on est stimulé par des émotions qu'on ressent réellement, mais qui ne sont pas nécessairement des faits non plus. T'sais, une personne peut me faire sentir quelque chose, puis je vais lui dire « Hey, je ressens de la colère, je me sens diminuée par ça », mais ça veut pas dire que la personne, c'est un fait qu'elle te diminue à ce moment-là. C'est ton ressenti. On doit apprendre à vivre avec, puis on doit gérer ça. Mais on doit pas non plus, quand on est l'autre partie, dire « Tu devrais pas te sentir comme ça ». Tu peux te sentir comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est un fait non plus, ce qui est en train de se passer. Peu importe, développer cette compassion-là avec un inconnu qui ne nous a jamais challengé du côté négatif des émotions, le fait d'écouter son histoire, le fait d'écouter comment elle sent cette personne-là, etc., ça développe l'aptitude ou encore la qualité, pour moi, de la compassion. Parce que justement, tu n'es pas biaisé, tu n'as pas des billets négatifs envers la personne, tu n'es pas fermé, tu es vraiment dans l'écoute de l'autre. Quelqu'un qui dit « Je le fais souvent et même avec les gens qui ont l'air bêtes, ça finit presque toujours par une belle conversation et des sourires. » Ça me rappelle un moment donné, il s'est rendu une de mes meilleures amies dans la vie. Secondaire 1, je suis dans la classe d'art plastique, puis j'arrive dans une école où je connais presque personne. Puis définitivement, dans ce cours-là, je connais personne. Puis je regarde une fille que je trouve tellement jolie, tellement belle, puis je lui fais un sourire. Hey, la réponse bête, toi, dans sa face. Puis ça, c'est le running gag dans la gang depuis toujours. Je voulais être amie avec cette fille-là. Puis elle m'a répondu de manière très, très bête avec son visage. Puis officiellement, depuis plus de 15 ans, c'est une de mes meilleures amies. Puis on en rit encore. Mais elle dit, ouais, elle est bien bizarre, elle, de me sourire. L'autre bord de la classe, je la connais pas. Puis elle avait tout son cercle d'amis. Fait que j'ai passé pour une bizarre pendant 3 secondes, ou peut-être le temps du cours d'art plastique. Puis après ça, ça s'est arrangé. Puis ça a été une personne très significative dans ma vie et ce l'est encore. Les bienfaits de parler à des inconnus. Ça, c'est dans l'enquête canadienne sur les liens sociaux là, qui a été faite, je vous rappelle. Ça a été tiré durant la COVID-19 et la période post-pandémique. C'est un sondage qui a permis de comprendre justement le rôle des liens sociaux pour surmonter des difficultés liées à la solitude, l'anxiété, l'épuisement professionnel et autres. Mais on dit que 60% des répondants se sentaient seuls plusieurs fois par semaine pendant cette période-là et 46% des participants sondés ont aussi déclaré qu'ils se sentaient seuls à tous les jours hors de cette période-là. 46%! Hey, c'est pas rien, là! Et il suffit d'un sourire, d'une simple conversation, peut-être juste d'une salutation avec la tête, d'une porte tenue et d'une bonne journée pour changer peut-être le quotidien ou la vie à ce moment-là d'une personne en tant que telle. Peut-être qu'on va loin avec changer la vie, mais on le sait pas. Il y a peut-être des gens qui ont peur du rejet, il y a peut-être des gens qui ont des idées noires ou qui vivent des quotidiens, le quotidien un petit peu plus sombre que nous, puis le fait de se sentir considéré à ce moment-là, ça a changé tout. Soyons, faites-le, ça va être la mission d'aujourd'hui que je vous donne, en fait, de saluer un inconnu ou une inconnue. Si vous êtes plus à l'aise, démarrer une conversation, au pire, vous aurez l'air bizarre, puis vous direz, ben je suis comme Pascal, j'ai eu l'air bizarre à un moment donné, mais peut-être que ça va être une personne dans ma vie qui va avoir été choyée par ce sourire-là ou cette salutation. Puis demain, redites-moi, OK, 418-971-1021, demain, redites-moi si vous l'avez fait, avec qui, dans quelle situation, puis on va se partager tout ça. On prend une courte pause. De l'autre côté, on appelle Jérémy Guillot, directeur chez TAC. Je veux parler avec lui de, oui, OK, l'entente avec Ottawa par rapport au transfert en santé, ça change quoi dans votre vie, cette bataille-là qui a été, entre parenthèses, gagné par François Legault. Mais je veux surtout qu'on jase du budget déficitaire de la CAQ qui semble donner une tape dans le dos, encore une fois, au PQ. Je la comprends pas, celle-là. Pour moi, il n'y a pas de lien entre ça. Un peu superficiel, comme tape dans le dos au PQ, non? En tout cas, on va en jaser avec lui.
Le samedi 23... It's time! L'heure CV avec Pascal CV.
Vous êtes mes efficaces, je vais le dire comme ça, vous le savez, je suis un peu pieuvre durant leur CV. Là. Je suis partout, à tous les moments de l'émission, derrière la console, je vous parle par texto 88-971-1021 sur Twitch. Et grâce à vous et vos messages, en fait, je suis capable d'indiquer à toute la communauté ici là, qu'il se passe quelque chose du côté de la Rive-Sud. En fait, c'est un bordel, là, je vais le dire comme ça, mais il y a un camion qui a arraché plein de fils électriques près de la rue des Rivières à Saint-Nicolas. Il n'y a plus d'électricité. Je suis allée voir pendant le bloc publicitaire, effectivement, du côté de Lévis. On est à près de 1000 clients privés d'électricité. Il y en a 200 dans la capitale nationale, mais ça n'a pas à voir avec ça. Sauf qu'effectivement, sur la rive sud, là, il y a des commerces qui en manquent beaucoup. Ce n'est pas la neige en ce moment. Ce n'est pas la bordée qu'on aurait su. C'est vraiment ce camion-là qui a arraché plein de fils sur la rue des Rivières du côté de Saint-Nicolas. Puis on va s'affairer à gérer le tout, mais les services d'urgence sont là aussi là, pour s'assurer qu'il n'y a rien de dramatique qui arrive, mais essayer de passer par un autre endroit si jamais c'est votre cas. Et c'est moins 3 degrés en ce moment pour la grande région de Québec. Ça pourrait monter jusqu'à 3 aujourd'hui. Averse de neige, parfois forte ou de pluie, tout dépendant si on reste en dessous de zéro ou pas. Puis demain, c'est la neige intermittente à moins 5 degrés. On va rejoindre notre ami et notre chroniqueur régulier à l'émission. Il est au bout du fil, Jérémy Guillot. Merci d'être là. Tu es directeur chez TAC et toi, tu es passionné par tout ce qui se passe en politique et il y en a des choses qui se passent. Bon mercredi.
Bon mercredi, Pascal.
Écoute, on va revenir sur l'entente entre Québec et Ottawa pour les transferts en santé. Ça semble un peu plate, mais je veux savoir qu'est-ce que ça change au quotidien pour nous, citoyens, parce que c'est quand même très important ce qui s'est passé. François Legault se bat depuis longtemps là-dessus. Mais ce qui a attiré mon attention ce matin et pourquoi je t'ai écrit, c'est encore le budget déficitaire de la CAQ qui fait jaser. C'est un budget historiquement déficitaire, disons-le comme ça. Et il y a des articles qui sortent parce que bon, on est allé en sondage, là, on est allé parler aux gens. Est-ce que ça affecte votre opinion de la CAQ en ce moment, ce budget déficitaire-là? Puis finalement, on voit que ça continue dans ce qu'on appelle la descente aux enfers du parti de la coalition Avenir Québec au profit du Parti québécois qui s'en vient en terrain majoritaire, là, ce qu'on dit. Et ça me surprend un peu parce que j'ai trouvé ça superficiel. Avec la sortie du budget qui est déficitaire, ouais. Il y a beaucoup de gouvernements qui auraient été déficitaires dans la problématique de l'après-pandémie. Il y a eu de très mauvaises décisions. On peut juger chacune de ces décisions-là. Mais ça ne semble pas un peu superficiel là, que ça soit au profit du PQ en ce moment?
Bien, il y a deux choses là-dedans. Si on se promène dans la rue de façon générale et qu'on demande aux gens « Que pensez-vous d'un déficit? » tout le monde va dire ça n'a pas de bon sens. Si on se remet dans la rue après ça, on demande à ces mêmes personnes-là, pensez-vous que le gouvernement devrait investir plus en logement, par exemple? Tout le monde va dire oui. Il y a un peu cette contradiction-là de façon générale quand on est au gouvernement, où ce que les gens veulent pas de déficit, puis en même temps, les gens veulent voir des investissements en santé, en éducation, en logement, etc. Donc, c'est sûr que là, le gouvernement est pris. Pour moi, la tendance qui se maintient, ce qui veut dire la CAQ qui tombe, le PQ qui monte, c'est davantage un peu un syndrome de ça fait 2 ans, c'est le deuxième mandat, on est à la moitié d'un deuxième mandat, on commence à devenir un peu plus impopulaire. C'est un cycle de vie normal en politique. On a parlé beaucoup de Brian Mulroney dans les dernières années, comment il était un politicien apprécié de tous et de toutes. Bien, M. Mulroney, il est arrivé, tout allait bien, son capital politique était au maximum, puis quand il est parti à la fin de ses mandats, bien, il est parti un peu où ce que certains disent que les partis conservateurs ont souffert pendant quelques années après ça de l'impopularité dans laquelle il est parti. Donc, c'est un cycle normal. Justin Trudeau est arrivé au début, tout le monde l'aimait, là, tout le monde a hâte qu'il s'en aille. C'est tout à fait normal. J'imputerais pas tout ça sur la faute du budget. Moi, là, c'est là que je débarque là-dedans parce qu'il y a eu des séries de mauvaises décisions qui ont été prises, on en a parlé. Mm-hmm. Et il y a aussi le syndrome de deuxième mandat. On est un peu, on se dit qu'il est peut-être temps de changer. Ça m'amène à PSPP. Paul Saint-Pierre Plamondon est un peu la seule alternative en ce moment. Le Parti libéral du Québec n'a pas de chef. Le Québec solidaire, on dirait qu'il plafonne depuis quelques années à 15-18% comme c'est le cas ce matin. Donc, c'est sûr que, et à travers ça, Paul Saint-Pierre Plamondon nous semble très authentique. Je pense que M. Saint-Pierre Plamondon est quelqu'un d'authentique. Il propose des idées, il semble faire de la politique différemment. Il n'a pas peur d'exposer ses vulnérabilités. On l'a vu cette semaine. Il y a une espèce de curiosité par rapport à l'électorat. Moi, je ne sais pas si ça va se maintenir parce que quand va venir le temps de faire le X dans l'urne, il va avoir une question fondamentale à travers ça, puis c'est est-ce qu'on est prêt à se pincer le nez sur l'élément de la souveraineté et voter pour le Parti québécois quand même? Moi, c'est là que la question demeure.
Bien, c'est pour ça que je me demandais si c'était superficiel un peu là, de faire un sondage comme celui-ci, puis la réponse de ce sondage-là des citoyens, des futurs électeurs aussi aux prochaines élections, en disant bien là, il prend encore une montée. On l'a vu, ce vent dans le dos-là de Paul Saint-Pierre Plamondon, par, je pense aussi, la personnalité politique qu'il a. C'est un gars qui a fait très bonne figure dans les débats. Par contre, certains disent qu'il manque de solutions. Il écrit beaucoup, mais on a hâte de savoir ce que le parti va faire. Lui, il se défend en disant bon, on n'est pas beaucoup. C'est dur pour nous d'être sur tous les pans puis d'apporter quelque chose de concret avec un papier. Étudier surtout. Mais c'est aussi le fait que, bon, comme tu disais, les libéraux se cherchent. Du côté des conservateurs, ben, ça ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais je trouve ça superficiel en ce moment, la politique. De cracher sur le budget, c'est une chose, mais ce n'est pas au profit d'un autre parti. C'est là où moi, je décroche parce que j'ai l'impression que tout le monde aurait fait un déficit. Il y en a peut-être qui en font des pires, mais on ne le saura jamais. Dans le sens où si ça avait été un autre parti politique à la tête du Québec en ce moment, qui aurait eu à faire le prochain budget, il aurait été déficitaire après la période pandémique, après la période économique. Mais est-ce qu'il aurait fait mieux, ce parti-là, l'autre parti élu? Peut-être, mais on ne le saura pas.
Bon, on ne saura jamais. Là, on spécule. Mais en même temps, quand on regarde la situation, oui, c'est vrai que 11 milliards, ça peut nous sembler beaucoup. Mais oublions pas qu'au Québec, on a la loi sur le retour à l'équilibre budgétaire qui nous oblige à mettre les épargnes comme si c'était des dépenses dans notre calcul. Le vrai chiffre, là, c'est 7,2 milliards de dollars en matière de déficit. À ça, on doit ajouter au Québec l'épargne pour les précautions, pour les imprévus, et l'épargne pour le fonds des générations, donc pour les générations futures. C'est ça qui nous fait monter à 11 milliards de dollars au niveau du déficit. Donc,
ça reste gros, là. Ça reste un bon déficit, là.
Ça reste gros, mais comme une personne, comme les gens qui nous écoutent en ce moment, quand on va à la banque regarde le pourcentage de notre endettement sur notre revenu et notre capacité, ce qui est notre capacité de payer. Là, en ce moment, le pourcentage du déficit sur le PIB, c'est 1,9, 1,2 si on prend juste le 7 milliards. Mais c'est pas énorme, là. C'est plus bas que plusieurs provinces à l'extérieur du Canada. C'est pas quelque chose qui est ingérable, comme le rappelait M. Girard lui-même. Il y a un aspect là-dedans où, oui, le 11 milliards nous fait peur, mais oublions pas que l'économie stagne. Si l'économie reprend, M. Girard va peut-être avoir une chance de rééquilibrer son budget, au moins de le descendre considérablement d'ici la fin de son mandat. Fait que moi, je partirais pas en panique avec tout ça en ce moment, puis j'imputerais pas les mauvais résultats de sondage à M. Girard. La responsabilité de la descente aux enfers de la CAQ en ce moment, elle est collective à la CAQ.
Oui, bien, tout le monde a mis son grain de sel, effectivement. On ne peut pas dire le contraire, puis ça ne semble pas être très, très fructueux, soit être apprécié en ce moment quand on est dans la coalition Avenir Québec pour les électeurs. Hey, Jérémy, avant de te laisser partir, j'aimerais ça rapidement là, faire un petit tour des transferts en santé qu'on a gagnés. François Legault, au moins, a gagné cette bataille-là, qu'il menait avec un front de bœuf depuis plusieurs mois déjà. C'était quelque chose auquel il tenait, aller chercher plus d'argent du côté d'Ottawa pour investir dans la santé ici au Québec. Rapidement, ça a un impact comment dans nos vies personnelles à nous?
Bien, dans nos vies personnelles à nous, on ne verra pas nécessairement la couleur de cet argent-là. Ce que ça veut dire, c'est que c'est Ottawa Québec gagne une bataille avec Ottawa. Ils vont se faire verser 900 millions de dollars annuellement pendant 10 ans sans condition. Hein, le Québec demande.
C'est beaucoup, ça, Jérémy, pour. On a de la misère à imaginer ça, là, 900 millions de dollars, on n'aura pas ça souvent dans notre compte.
Bien, c'est énormément d'argent. Sauf que le gouvernement du Québec va dire que c'est insuffisant. M. Legault réclamait 6 fois plus d'argent. Ouais. En même temps, c'est beaucoup d'argent, 900 millions de dollars. Là. C'est.
Puis on ne demande pas de compte. Ça veut dire que vous faites ce que vous voulez tant que vous l'investissez en santé. C'est un peu ça. Là.
Exactement. Alors qu'Ottawa, on le sait, aime ça dire, par exemple, OK, il y a de l'argent qui s'en va en santé mentale, il y a de l'argent qui s'en va en infrastructure en santé. Donc, tu sais, 900 millions de dollars, là, c'est beaucoup de troisième lien.
Oui, on peut l'exposer comme ça, c'est un fait. Est-ce que les autres provinces ont réussi à aller chercher de l'argent comme nous, on a réussi au Québec avec François Legault?
Bien, les autres provinces ne sont pas nécessairement dans la même situation que le Québec. Le Québec va toujours s'en faire verser un peu plus. Il y a des choses qu'on a au Québec que les autres provinces n'ont pas. Quand tu prends l'assurance, par exemple, médicaments, au Québec, on en a. Dans les autres provinces, il n'y en avait pas exactement comme c'était fait. C'est un peu, on a déjà parlé du dossier des garderies à l'émission. Bien, quand le reste du Canada se voit mettre en place un programme pour des garderies subventionnées à un montant fixe par jour, bien, le Québec reçoit une indemnisation parce que eux, ils font déjà. Nous, on fait déjà ça chez nous depuis plusieurs années.
Donné de l'argent à d'autres provinces pour établir ça. Bien, nous, on reçoit de l'argent, mais on fait ce qu'on veut avec parce qu'on l'avait déjà.
Exactement.
C'est comme un parent qui veut donner 10 $ à son enfant, mais va donner 10 $ aux autres enfants pour être sûr d'être équivalent. De ce qu'on peut voir parfois dans certaines familles. Il ne faut pas que ça en dise que tu as un préféré.
Il y en a un qui travaille, peut-être qu'il va en avoir d'une façon différente. mais c'est effectivement, on prend en considération ce que le Québec fait déjà versus ce que les autres provinces ne font pas. Puis des fois, le Québec se retrouve, on parle souvent d'immigration, par exemple, le Québec est la seule province au Canada à recevoir une indemnisation parce qu'on s'occupe de on fait l'intégration nous-mêmes. Donc, genre d'affaires, il y a beaucoup de choses qu'on fait au Québec, indépendamment du fédéral.
Merci beaucoup, Jérémy Guillaume, de nous avoir éclairé un peu là-dessus, directeur chez TAC et notre expert en politique ici à Boulevard 102.
Merci, Pascal. Bonne journée.
Bon mercredi enneigé, si jamais il y en a du côté de Montréal.
Bye-bye.
Bye. C'était, Jérémy, vous l'avez en chronique à chaque semaine ici. On a parlé, entre autres, de pourquoi est-ce que le PQ, le Parti québécois, s'est fait pousser dans le dos depuis le budget déficitaire de la CAQ. En fait, il aurait été déficitaire pour n'importe quel parti. Est-ce que c'est vraiment ça qui a changé la donne? Pas certaine qu'on peut l'attribuer qu'au budget. Hein. Je pense que vous avez en masse de réclamations contre la CAQ en ce moment pour peut-être... chercher votre prochain parti aux prochaines élections. Et je te trouve écœurante de Bob Bissonnette. C'est ça qu'on écoute à Boulevard 102.1, le 418-971-102.1 et Twitch. C'est la façon de me rejoindre en tout temps ici en studio, que vous soyez content ou mécontent.
Ça sent pas très tough, mais je te trouve charmante. Ou ma manière de dire, c'est que je te trouve écœurante. T'es belle de face, t'es belle de profil. J'adore ton petit cul, j'adore ton style. T'es cute au bout, t'es belle comme un cœur. Même si je suis un fan des Yankees, je suis tout plus sexy que Derek Jeter. T'étais une Formule 1, tu serais une Ferrari. Je pourrais être Michael Schumacher, qu'est-ce que t'en dis? Je te trouve écœurante. Fallait que je te chante. Les boys de la chambre en reviendront pas. Quand ils vont voir que c'est moi qui t'a donné.
Salutations aux auditeurs d'Hydro-Québec. En fait, ceux qui travaillent chez Hydro-Québec, qui écoutent leur CV en ce moment, Boulevard 102.1, et qui nous envoient des images en direct de ce qu'ils sont en train d'essayer de réparer, soit la panne du côté de la Rive-Sud, oui, parce que du côté de Chaudière-Appalaches, là, dans le coin de Saint-Nicolas, il y a plus de 900 clients qui manquent d'électricité. Merci à Stéphane qui nous a écrit rapidement pour nous mentionner que sur la rue, excusez-moi, il manquait le son ici, là. Sur la route des Rivières, il y a eu un accident parce qu'il y a un camion qui a arraché plein de fils électriques près de la, du travail là, de cet auditeur-là. Et il n'y a plus d'électricité, donc, sur la route des Rivières, la rue des Rivières à Saint-Nicolas. N'allez pas là pour l'instant. Services d'urgence qui sont sur place également pour s'assurer que tout se passe bien. Mais s'il fait tout noir de votre côté, bien, c'est la raison sur la Rive-Sud en ce moment. Grosse journée d'actualité, honnêtement. Je la trouve intéressante, cette journée-là aujourd'hui. Entre autres, une nouvelle qui sort un peu du champ gauche, là. Partager sa chambre avec des inconnus pour payer le loyer. Moi, j'ai lu ça ce matin, puis c'est probablement mon pire cauchemar, là. On est ailleurs, là. Et on est ailleurs. Là, clairement, on est ailleurs parce qu'on est du côté de Toronto, mais on veut pas que ça arrive ici. Souvent, ce qui se passe à Toronto se passe à Montréal ensuite, puis ce qui se passe à Montréal se passe à Québec par la suite aussi. C'est un reportage qui a été fait par Radio-Canada et on affirme que, bon, vivre seul à Toronto, ce n'est pas le rêve, tellement qu'il y a eu maintenant des genres de loyers qui ont été conçus pour que dans une... C'est quasiment une, pas une maison de chambre, mais une chambre de chambre, une chambre de lit, qui a été créée et on met plein de gens dans la même pièce pour dormir. Il y a une jeune femme qui paie 425 $ par mois pour sa chambre partagée. Ça va créer un blanc en onde puis ça va mettre une alarme parce qu'il y a trop de blanc en onde. Il n'y a rien, il n'y a personne qui parle puis il n'y a pas de musique. Là. 425 $ par mois pour une chambre partagée. Puis quand vous regardez les images qui ont été données par cette jeune fille-là aux médias Radio-Canada, c'est pas t'as deux lits puis la pièce est grande, là. C'est des lits cordés comme si on était à l'orphelinat. Louer une chambre seule, c'était impossible pour elle. À l'heure actuelle à Toronto, le coût moyen là, d'un appartement d'une chambre, c'est 2 495 $ par mois quand on va sur le site de rentals.ca. Puis, mettons qu'on compare, le loyer moyen pour un 3,5 à Montréal, c'est 1 743 $. À Québec, c'est un peu moins. Mais Toronto, là, 2 495 $. Puis, ben c'est normal. La jeune femme qui est aux études, elle s'est dit, ben c'est la seule chose que je suis capable de me payer. C'est même pas une colocation, en fait. C'est une chambre partagée. Ça m'a donné des frissons dans le dos. Faut pas que ça arrive, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on devrait être capable de se loger partout puis surtout d'avoir le minimum d'intimité. Allez voir ça, l'article de Radio-Canada. C'est pas mal un cauchemar. Perquisition aussi en lien avec le trafic de stupéfiants dans la région de Québec. Parlant d'un cauchemar, on va continuer sur l'autre. Vous savez ce qui se passe à Québec depuis un petit bout. Il y a toute cette guerre, en fait, entre des trafiquants de drogue et les Hells Angels. Il y a eu 6 perquisitions depuis ce matin là, dans la ville de Québec en lien avec ce trafic-là. Il y a des sources policières qui affirment que les sites touchés sont liés aux sympathisants des Hells Angels cette fois-ci. C'est pas la gang à Picture Mill là, dont on a en masse parlé dans les dernières semaines. Il y a une 60aine de policiers qui sont actuellement présents dans des résidences de Saint-Agapi, de Lévis, Saint-Lambert-de-Lauzon et dans un commerce d'ici là, de Québec. Trois véhicules qui ont été saisis. Opération qui est menée avec la Sûreté du Québec et le corps de police de Québec et de Lévis. On veut justement viser toutes ces activités de trafiquants reliées au crime organisé. On est là-dedans depuis le mois de septembre. C'est pas compliqué et on continue à chaque jour. Où est le maire? Où est Bruno Marchand? Eh bien, il est en mission économique à Boston. Ça aussi, on a appris ça ce matin. Il est en direction de Boston, en fait. Il doit tenir sa première mission économique en sol américain. C'est pour les trois prochains jours. Puis, bon, il est question de résilience climatique, de décarbonation, je veux bien le dire et c'est le cas, de bâtiments et des rencontres avec des acteurs économiques. On dit que, bon, c'est une ville avec laquelle les gens d'affaires ont beaucoup de liens, Boston, les gens d'affaires de Québec, les gens d'affaires d'à travers le monde, et c'est pourquoi qu'elle a été choisie. Et on justifie la première mission en sol américain après avoir visité l'Europe à quatre reprises dans les 18 derniers mois pour aller justement sympathiser avec tout ce qui est la classe d'affaires. À vous de juger, à vous de savoir ce qui vous intéresse ou pas là-dedans puis ce que vous en pensez. Le marketing de la malbouffe devrait être interdit où les enfants sont exposés. Ça, c'est intéressant. Vous savez que c'est impossible de faire de la publicité qui vise les enfants. Avec des enfants, c'était le cas il y a plusieurs années. Maintenant, c'est interdit. On n'a pas le droit, en fait, parce que là, ce qui fait en sorte que l'enfant va toujours aller gosser les parents pour dire « Moi, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. » Puis c'est de jouer avec des jeunes qui n'ont peut-être pas nécessairement le jugement assez aiguisé pour. Là. C'est d'aller jouer dans la corde sensible, en fait, aussi des parents. Mais là, le Canada, on pointe du doigt le pays, en fait, puis bon, les décisions qu'on prend, parce qu'on veut interdire le marketing de malbouffe là où les enfants peuvent être exposés à ce marketing-là. C'est une nouvelle suggestion, en fait, qui est faite par des chercheurs de l'Université Laval. Donc, de Québec ici. Et ça inclurait dans cette suggestion-là, notamment la télévision, les médias sociaux et les panneaux d'affichage. Bon, les auteurs de l'étude, eux, recommandent aussi qu'il n'y en ait pas du côté scolaire. On le sait, il y a quand même eu un meilleur arrangement au courant des dernières années, un genre de virage chanté dans les écoles. Mais on veut aussi un meilleur financement des programmes d'alimentation scolaire. On veut une imposition sur les limites de sel, de sucre, de gras saturés utilisés dans la restauration et les aliments préemballés qui sont vendus dans les écoles. Peut-être une taxe aussi sur les boissons sucrées. En fait, ce sont plusieurs suggestions qui sont faites par ces chercheurs-là de l'Université Laval. Et ça découle de propos d'une cinquantaine de spécialistes en nutrition des quatre coins du Canada. Donc, on s'est mis tout le monde ensemble pour justement passer cette information-là et souhaiter que ce soit intégré au Canada, soit l'interdiction de faire de la publicité sur le dos des enfants aussi par rapport à la malbouffe. Et je vous rappelle qu'au Québec, la loi sur la protection du consommateur a été adoptée en 1978 par le gouvernement de René Lévesque. Et c'est là qu'on a interdit la publicité à but commercial qui était destinée aux enfants de moins de 13 ans. Mais aujourd'hui, on remet peut-être en question la pertinence de cette loi-là parce que par les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui passent et ce sont seulement les médias traditionnels qui sont dans l'impossibilité justement d'aller cibler les moins de 13 ans dans leur publicité. Chose dite, ça me rappelle, en Europe, en France, quand j'avais écouté la télévision l'année dernière, dans tout ce qui est McDonald's, Burger King ou même une entreprise qui vend, par exemple, je sais pas moi, une palette de chocolat ou autre, quand il y avait une publicité à la télé, il y avait des messages gouvernementaux en dessous en disant, bon, vous savez que trop de sucre mène à la consommation de sel maximale pour une personne quotidiennement devrait, à chaque fois qu'il y avait une publicité sur la malbouffe ou encore sur mauvaise alimentation, là, il y avait ça. Puis le sport aussi, il y avait des messages sportifs du genre « Vous devriez bouger X nombre d'heures par jour. » Ben, peut-être pas d'heures, mais de minutes par jour. Je trouvais ça intéressant. Je sais que vous voulez pas vous faire dire comment agir là, avec le gouvernement et tout, mais je trouvais ça intéressant. Moi, ça me rappelait une couple de choses, puis de façon inconsciente ou consciente, je l'avais en tête, là, qu'il fallait que je bouge aujourd'hui, mais quand on est en voyage, on marche. Festival d'été de Québec, c'est aujourd'hui midi que la programmation sera dévoilée. Il reste encore quelques minutes pour jouer avec vous à qui ne sera assurément pas de la programmation. Allez donner vos idées au 88-971-1021 ou encore par la page Facebook, Instagram, pardon, de Boulevard 101. Il y a une petite cases là, à répondre. Je veux savoir qui ne sera pas au Festival d'été de Québec dans la programmation. Certains ont dit Guillaume le Métis Vierge. Oui, on sans doute, on peut jurer sur la tête de notre mère, de nos enfants, de nos grands-parents que Guillaume le Métis Vierge ne sera pas l'artiste invité au Festival d'été de Québec sur une soirée de la grande salle, de la grande scène. Ça, c'est sûr, 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 sûr. Allez écrire qui ne sera pas de la programmation. Et rappelez-vous que nous ouvrirons du côté du Festival d'été de Québec aussi la billetterie de façon graduelle à partir de 11 heures pour acheter votre passe. Et à midi, on se frotte les mains. On a hâte de savoir qui performera dans notre belle et grande ville durant le Festival d'été de Québec. Feu la nuit et fleurs à Boulevard Saint-Denis.
RCV avec Pascal CV.
Qui ne sera pas de la programmation du Festival d'été de Québec? On fait un peu changement de toutes ces suppositions dont on espère voir sur les plaines d'Abraham. Bon, on peut quand même aller s'amuser, là. On peut quand même aller voir un peu les dernières rumeurs. Il y avait, entre autres, Maroon 5. Zach Brown Band aussi était pressenti dans les rumeurs, là. Sweet tea, pecan pie, homemade wine. Where the peaches grow. In my house is 50 Cent. On aura un spectacle à la Pitbull. Un spectacle resté dans le temps des années 2000. D'excellentes danseuses qui méritent des applaudissements. Quelqu'un qui danse pas trop, mais qui nous fait revivre un peu notre adolescence. Chris Stapleton. Ça, ce serait un peu extraordinaire. On croise les doigts. On croise les doigts aussi pour Motley Crue. À midi, on saura qui va performer sur les plaines d'Abraham. On a hâte, on a hâte, on a hâte. Pour vrai, c'est excitant. Cette journée-là est toujours très, très, très excitante. Mais qui ne sera pas de la partie? Selon vos suggestions, il n'y aura pas Joe Bocan. Elle ne sera pas là.
Imaginez la terre comme un jardin d'Éden. Horizon
ouais,
sans
non.
Frontières.
Vous êtes dans le Québécois. Selon vous, Garou ne sera pas de la programmation aussi.
Tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites, mais toujours une femme.
Gildor Roy non plus. Selon des bons comiques. Hey, saviez-vous qu'Hildon Roy avait une carrière musicale? Ça passait là, en masse une couple de décennies. Puis c'est du sérieux, là. Hildon chantait ça avec tout son sérieux.
Ça faisait trois jours que j'étais parti chanter mes chansons d'amour pour gagner ma vie.
Mais
quand j'ai poussé la porte,
ce sera pas. Ce sera pas ces plaines d'Abraham. Ni l'autre saint. Steffi Choc non plus. Ça paraît que c'est passé, ça, un homme à la mer.
J'ai négligé le mode d'emploi. J'ai tendance à faire des choses qui me plaisent pas. Il paraît que j'ai l'amour éphémère. Un homme à la mer pour chaque fille.
Oh, la grande espérance de tous et chacun. On n'est pas sûr qu'on va l'avoir. Si on a Post Malone sur les plaines, c'est déjà ça. Mais écoute, tellement chiant en spectacle que souvent, ces artistes-là, ils vont pas les performer dans un festival, on espère. Post Malone, ce serait extraordinaire, mais Eminem, on n'y croit plus. Là. Après tant de demandes, après tant d'années, on pense du côté des auditeurs de Boulevard 101 qui ne sera pas sur les plaines d'Abraham.
Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready.
John Lennon est sorti aussi. C'est sûr qu'on... On est sûr, sûr, sûr qu'il sera pas là.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see.
Et là, vous m'avez fait vraiment rire, retourner il y a tellement d'années en disant qu'Aldi ne sera pas sur les plaines d'Abraham. Mais s'il y a un rappeur américain qui ne passe pas aux douanes, peut-être qu'on va l'appeler. Aïe, aïe, c'est vieux, ça. C'est aussi très mauvais, mais bon. Comprenez ce que je veux dire? C'est quoi qui est très mauvais, mais qui est bon pareil? Ben, Aldi.
Tiens, gros, je te donne mon flow, now. J'ai payé mes douches, je mérite mon dos, now. Si t'as
dans le saut. Répète ça chez vous, puis dans ton auto, là.
Trêve de plaisanterie douteuse, c'est ce qui conclut leur CV. Ça aurait jamais été mieux que cette finalité-là. Mais programmation du Festival d'été de Québec, oui, c'est aujourd'hui, c'est à midi. On est content, on est excité. On va connaître qui va nous faire vibrer au mois de juillet. Parmi tous ceux qui n'y seront pas, des Raël étaient sortis, des Guillaume Lemaitre-Vierge. Je vous laisse niaiser là-dessus. C'est le fun de vous lire, c'est trippant. Sinon, on se retrouve dans un instant. Marceau midi, c'est dans quelques minutes. Yannick Marceau s'en vient au micro principal. Je reste avec lui et Thomas Gauthier se joint à nous. C'est une belle journée, malgré la neige, pour ceux qui sont tannés. Là, êtes-vous vraiment tannés? On a eu 3 bordées, là, 3, 4 cette année. On peut faire avec la petite dernière, hein? C'est moins 3 degrés à l'extérieur à Québec, donc c'est un peu l'hiver, malgré que le printemps soit officiellement arrivé depuis 11 heures hier soir. Il nous en reste un petit peu, là, un petit peu de petits flocons à déverser sur la capitale nationale. Et je vous rappelle qu'il y a des pannes électriques aussi du côté de Chaudière-Appalaches, dans Lévis, notamment à Saint-Romuald, parce qu'il y a un camion qui a accroché des fils électriques. Mais on s'affaire à rétablir le tout dans les prochaines minutes. Ouais, ça va se faire pendant Marceau le midi. Et restez là, à Boulevard 102.1.